Perdre un être cher, c'est une expérience qui est difficile pour nous tous. Imaginez pour un enfant qui ne comprend pas toujours le contexte, qui ne sait pas toujours ce qui est arrivé et qui peut parfois ne pas arriver à se comprendre lui-même dans toutes ces émotions-là qu'il traverse, ou au contraire avoir des réactions que les parents ne comprennent pas trop. Alors, pour les aider à mieux vivre leur deuil, il y a une fantastique organisation qui s'appelle la Maison des petits tournesols et j'ai le plaisir d'avoir en studio la coordonnatrice Claudine Grisé. Bonjour Claudine.
Bonjour, merci de me recevoir.
Oui. Ben, on se disait hors d'onde hein, que c'est ça prenait tout un grand cœur parce que c'est pas facile de côtoyer le deuil au quotidien. Comment on y arrive?
Bien, déjà, il faut être bien préparé. Évidemment, notre équipe, on est formée en intervention.
Oui.
On est des personnes qui ont travaillé depuis longtemps en intervention. Donc, on a une base là, déjà pour intervenir. Le thème du deuil aussi, on a étudié cette problématique-là qui est particulière, qui n'est pas le même type d'intervention nécessairement qu'avec d'autres situations. Mais évidemment, quand on a une famille devant nous qui souffre beaucoup parce qu'il y a un décès qui a eu lieu dans la famille, c'est sûr que c'est toujours un peu touchant pour nous, puis on ne peut pas rester insensible à ça, mais par notre formation, on est capable de faire la part des choses et autant être à la fois empathique et très présent avec les personnes au moment même où ces personnes-là sont avec nous. Et on faut apprendre à être capable aussi de se détacher un petit peu après, sinon ça serait trop lourd de porter le poids de toutes ces souffrances-là. Là.
Oui, bien, c'est sûr qu'au Héros Anonyme, on rencontre beaucoup de gens qui souvent ont à intervenir dans des situations remplies de défis, disons. Donc, on vous remercie d'être là pour toutes ces personnes qui ont besoin de vous. En quoi le deuil des enfants est différent d'un deuil, je dirais, peut-être qu'une personne adulte peut vivre?
Bien, c'est sûr que les enfants ne comprennent pas nécessairement la mort, le deuil, la maladie, de même façon que les adultes. Puis ça dépend vraiment des âges aussi.
Oui.
Les très petits enfants qui n'ont même pas encore la conscience que les gens qui disparaissent ne vont pas revenir, c'est très différent d'un jeune qui est un peu plus vieux, qui comprend là, que grand-papa, par exemple, ne va pas revenir. Donc, il y a une finalité du corps. Ça, les enfants, à partir d'un certain âge, comprennent ça. Fait que déjà, c'est un peu plus facile avec eux de parler du deuil, de parler de comment ce que ça représente pour eux. Puis c'est sûr que la dimension, justement, des émotions, les enfants n'ont pas encore la maîtrise du langage des émotions. Comment exprimer ce qu'ils ressentent avec des mots d'adultes. Donc, souvent, ils vont l'exprimer autrement. Fait que nous, dans notre approche, bien, on explore avec les enfants à travers le jeu, à travers des dessins, à travers des questions, des différentes choses. On aborde ça un peu par le côté, si je peux dire, parce que parfois, si on leur demande ouvertement ou directement... comment tu vis ton deuil, ça va être un peu déstabilisant pour eux. Là, c'est ça. Donc, on l'aborde autrement, puis on réussit à obtenir quand même beaucoup de réponses aux questions. Puis en fait, nos questions, c'est parce qu'on veut amener le jeune à pouvoir exprimer comment il sent, ce qu'il vit, puis comprendre c'est quoi les différentes émotions qu'on a dans le deuil, puis que c'est des émotions qui sont normales. Souvent, par exemple, les enfants vont vivre de la colère.
Ah, oui.
Alors là, pour eux...
C'est pas juste.
Que c'est pas juste. Puis des fois, ça va être... Ils ont de la peine, mais ils l'expriment par la colère. Donc, ça dépend de différentes choses. Ça dépend de la personnalité des enfants aussi. Ça dépend de l'histoire de l'enfant, l'histoire de la famille. Il y a plein de choses, plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte qui vont faire qu'un enfant va réagir d'une façon ou d'une autre. Mais c'est pas toujours facile pour l'enfant de comprendre lui-même qu'est-ce qui lui arrive, puis qu'est-ce qui arrive à la famille.
Surtout si c'est une première fois, parce que c'est une première fois à tout.
Oui,
mais malheureusement, chez les enfants, la première fois qu'on est confronté, on n'a pas de bagage pour faire face à ça, puis on n'a pas non plus, on ne sait pas qu'il y a des étapes normales
Non. Puis même, je dirais, les adultes, souvent, le savent un peu de façon théorique. Là, tout le monde a entendu parler qu'il y a des étapes, mais quand on est dedans, c'est très différent que l'avoir déjà lu en quelque part, là. Fait que c'est sûr que les enfants, oui, ça, c'est des choses qu'ils ne comprennent pas encore d'emblée. Donc, il faut comme les amener à ça de différentes façons. Mais cette approche-là qu'on a avec les enfants est très, très aidante parce que ça les aide, justement. Ils ont un endroit à eux-mêmes où ils peuvent parler de ce qu'ils vivent sont pas devant leurs parents, donc ils peuvent exprimer des choses qu'ils n'oseraient peut-être pas dire devant les parents. Des fois, les enfants ne veulent pas faire plus de peine encore à leurs parents qu'il y a déjà de la peine, fait qu'ils se mettent un poids sur eux
les
en disant...
Les enfants peut-être qui se sentent pas responsables, mais dire si je pleure puis je vois que ma mère pleure déjà,
c'est ça
va être plus
exactement.
Dur pour elle.
Ça, c'est des choses qu'on voit souvent. Des fois, il y a des enfants qui vont se sentir coupables, qui vont interpréter que c'est un peu de leur faute si leur petit frère est mort parce qu'il s'était chicané avec.
Ah oui.
Tu sais, il y a plein d'idées comme ça que les enfants peuvent se faire. Donc, là, on l'explore vraiment seul avec l'enfant ou on a aussi des groupes. Donc, ça va être des jeunes qui vivent quelque chose de similaire ensemble. Fait qu'ils ont vraiment un espace où ils peuvent parler de ce qu'ils vivent. Puis, avec notre intervention, ils apprennent que c'est tout à fait normal, que c'est compréhensible, puis qu'il y a des façons de l'exprimer. Fait qu'on les aide comme ça à apprivoiser le deuil, à apprivoiser les différentes émotions, puis à trouver des choses, pas positives, mais à par exemple, développer des souvenirs de la personne qui était aimée.
Qu'est-ce que cette personne-là leur a apporté?
Leur a laissé comme héritage, tout ça. Fait que c'est très, très aidant pour les jeunes.
Est-ce que c'est plus difficile, justement, on parlait que ce soit un frère ou une sœur, quand c'est quelqu'un de la fratrie, justement, qui pourrait être un enfant aussi comme lui, parce que, en quelque part, c'est plus près de lui, tandis qu'un grand-papa, une grand-maman peut... on est triste quand même, on va avoir peut-être des signes, soit qu'il est malade ou soit qu'il vieillit. Donc, il y a eu une discussion avec les parents sur ces choses-là. Mais si c'est un frère, une sœur... est-ce que c'est plus difficile pour les enfants?
Bien, on n'aime pas trop comme catégoriser ou généraliser. Ce qui est le plus important dans le deuil ou l'intensité du deuil, c'est quoi le lien qu'on avait avec la personne?
Oui. Je pense que c'est une des questions que vous leur posez.
Oui,
elle était qui, cette personne-là?
Oui, tout à fait. Si la petite fille a un lien hyper fort avec son grand-papa, ça va la toucher beaucoup, 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 même si elle n'est pas au quotidien avec son grand-papa. Si elle n'avait pas des super bonnes relations avec son petit frère, c'est sûr que ça va la toucher, mais on ne peut pas comme quantifier. Ça dépend vraiment de la relation qu'on a avec la personne, de comment ça s'est passé, de l'étape où l'enfant est aussi dans sa vie. Comme je disais tantôt, on ne réagit pas de la même façon à 5 ans, qu'à 10 ans, qu'à 20 ans. Puis c'est sûr que, bon, on a souvent l'impression que plus c'est quelqu'un de notre famille, ça va être plus dur. Mais tu sais, je pense par exemple à un adolescent qui perd son meilleur ami. Ça peut être très, très difficile aussi, autant que si c'était un frère ou une sœur.
Ou même des fois une vedette qui suit dans les réseaux sociaux. Je sais que je me rappelle, moi, à 11 ans, j'ai une amie que quand Elvis Presley était mort, elle s'était mise à pleurer. Elle était inconsolable. Alors que moi, j'avais moins ce lien. Je comprenais pas. Je savais pas comment l'aider. Mais surtout, peut-être un adolescent, ses réseaux d'influence, même des influenceurs qui peuvent suivre, il y a un attachement comme ça que ça m'amène peut-être la question, comment vous agissez avec les parents? Est-ce que vous les aidez aussi si des fois les enfants ont des réactions qu'un parent ne comprend pas?
Tout à fait. Alors nous, on reçoit toute la famille, si toute la famille veut venir. Ouais. En général, on reçoit les parents et les enfants. Pour une première rencontre, là, pour faire une prise de contact, pour ouvrir le dossier, voir c'est quoi la situation, c'est quoi l'histoire du deuil, c'est quoi les besoins puis les attentes. Puis après ça, dépendamment de qui dans la famille a besoin, souvent il va y avoir un des deux parents qui vient et un ou deux des enfants qui viennent. Nos rencontres, par contre, c'est séparé. Là. Les enfants ne sont pas avec les parents. Donc, si un suivi individuel pour le papa, par exemple, puis que l'enfant vient, l'enfant va voir l'autre intervenant. Ils ne sont pas... chacun a son propre suivi. Donc oui, on peut recevoir les frères, les sœurs, on peut recevoir les grands-parents, on peut recevoir les oncles, les tantes, l'ex-conjoint. Notre définition de famille est quand même assez large.
Ça peut être une famille du cœur.
Absolument, c'est ça. Puis c'est ça, vraiment une personne qui est significative dans le fond pour la personne. Puis il arrive qu'on voit que le parent puis que l'enfant, lui, n'a pas besoin pour le moment. Donc c'est pas une obligation que l'enfant soit là pour qu'on aide les autres membres de famille. C'est dès qu'il y a un deuil qui touche la famille, très élargie, on peut intervenir.
Claudine, on prend une courte pause, puis je vais vouloir comprendre un peu comment la Maison des petits tournesols arrive dans la vie des jeunes endeuillés tout de suite après. Merci. De retour au Héros anonymes avec Claudine Grisé, coordonnatrice de la Maison des petits tournesols qui offre des services aux enfants et adolescents endeuillés et aux familles. Donc, Claudine, comment la Maison des petits tournesols se présente là, dans une trajectoire de deuil? Comment les gens en entendent parler?
Souvent, les gens sont référés par exemple, une professeure à l'école ou la psychologue de l'école, CLSC, des fois les médecins, mais souvent, c'est les parents par eux-mêmes qui vont peut-être faire une recherche sur Internet, vont voir qu'on existe. Mais ça, c'est un de nos défis parce qu'on est une jeune organisation. Hein, ça fait juste 5 ans qu'on existe.
5 ans.
Oui. Donc, on n'est pas encore si connus. Régulièrement, là, chaque semaine, on a des gens qui nous appellent puis disent « Je viens juste de découvrir que vous existez. » Donc, on veut vraiment se faire connaître plus.
C'est pour ça, les héros anonymes. Oui. C'est justement les organisations qui sont nées, qui ne sont pas encore connues. Et j'apprends que vos services sont gratuits.
Tout à fait. Donc, wow. C'est gratuit parce que c'est vraiment important pour nous, l'accessibilité. Oui. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens financiers d'avoir une psychologue, parce qu'il y a des psychologues qui peuvent offrir ce soutien-là, mais c'est ça coûte cher. Puis des fois, les personnes qui sont en deuil, des fois, elles sont en arrêt de travail et tout ça. Fait qu'on veut vraiment, nous, que ça soit accessible à tout le monde. Puis les gens qui ne peuvent pas se déplacer à nos bureaux, nous, nos bureaux sont dans le Vieux-Longueuil, mais on peut faire les rencontres par visioconférence aussi. On fait des rencontres par téléphone aussi. Parfois, les gens veulent juste une demi-heure d'écoute. Donc, on essaie vraiment de s'adapter aux familles, mais on veut vraiment pas refuser personne. Donc, c'est important pour nous que ça soit gratuit.
Là. Parce qu'on le sait, l'accès aux soins de santé en psychologie publique, ce sont de longues attentes.
Exactement.
Et malheureusement, dans un cas comme ça, le temps va changer la donne, mais c'est à ce moment-là qu'on en a besoin.
Tout à fait. Puis nous, on n'a pas de liste d'attente. Donc, on voit rapidement les gens. Souvent, la semaine même ou la semaine d'après, on fait déjà une première rencontre avec eux. Puis rapidement, s'ils veulent un suivi individuel, on le commence. Puis on a des suivis de groupe qui, ça, sont un peu moins souvent. Donc, des fois, il va falloir qu'ils attendent quelques semaines. Mais évidemment, si on devient très, très populaire un jour, on va peut-être avoir des délais un petit peu plus longs. Mais pour le moment, en tout cas, il n'y a pas d'attente. Puis parce que, comme vous le dites, c'est important que rapidement, les gens aient du soutien. Là.
C'est bien de ne pas avoir à se poser la question, par exemple, de voir un psychologue. Parce que si on voit que notre enfant traîne une immense peine ou une colère longtemps, si on ne vous connaissait pas, on peut en venir à se poser la question. Oui. Puis là, à se dire, ben est-ce que sa peine est si grosse que ça? Est-ce que ça vaut la peine de consulter? Tandis que là, au moins... J'imagine qu'on peut faire au moins une première rencontre, ne serait-ce que pour explorer.
Il y a beaucoup de personnes qui viennent une seule fois parce que juste de venir une première fois à parler de ce qui se passe et avoir des réponses à leurs questions sur qu'est-ce qui est normal, suis-tu normal dans mes réactions, est-ce que mon enfant est normal? Déjà, juste ça, souvent, c'est très, très aidant pour eux. Ils savent après qu'on existe, ça les rassure. Fait qu'ils savent que si dans quelques semaines, quelques mois, même quelques années, ils ont besoin de venir, bien, on est là. Fait que ça, déjà, souvent, il y en a que c'est suffisant pour eux pour le moment. Puis il y en a plusieurs qui vont entreprendre après une démarche avec nous. Là.
Combien de familles en 5 ans vous avez pu...
Autour de 400.
Ah,
puis à chaque année, ça augmente. Là. Donc cette année, on va en avoir vu plus qu'à l'année passée. Puis là, c'est juste la famille, mais dans chaque famille, il y a plusieurs personnes qui viennent. Fait que cette année, on a vu, là, je pense, 450 personnes à peu près.
Vous dites, bon, fondée depuis 5 ans. C'est quoi l'histoire de la Maison des petits tournesols?
Bien, en fait, premièrement, c'est qu'il n'y avait pas de ressources exactement comme ça. Les personnes qui ont fondé la maison, certaines de ces personnes-là étaient à la maison Montbourquette.
Oui.
Et quand la maison Montbourquette a fermé...
Quel dommage!
Certaines personnes se sont dit, on ne peut pas comme juste abandonner ce projet-là, donc on va partir à autre chose. Et là, moi, je n'étais pas là à l'origine, donc je ne sais pas tous les détails, mais c'est aussi parce que ça répondait à un besoin qui est vraiment criant.
Oui.
Et au fil des années, bien, on a comme développé, on a un peu repris l'approche de Montbourquette, mais on l'a adapté aussi à notre couleur, puis au fil des années, avec l'expérience des familles qu'on rencontrait. Là.
Oui. Et bon, malheureusement, on connaît un peu la démographie de la société québécoise. On s'en va vers un vieillissement de la population. Donc, il est possible qu'il y ait peut-être un nombre de décès plus grand dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a des je sais pas, je sais que vous tenez à démystifier ce qui est le deuil. Là. Comment vous réagissez face à ces statistiques-là?
Bien, effectivement, c'est intéressant parce qu'on a nous-mêmes des questionnements en tant qu'équipe. Là, on se dit, il y a une nouvelle réalité sociale aussi. Il y a des gens qui demandent l'aide médicale à mourir. Oui, effectivement, il y a la population vieillissante. Donc, il y a des nouvelles réalités. Puis on se dit, il y a certaines choses qui peut-être qu'il faudrait qu'on offre, par exemple, un service pré-deuil. Les gens qui demandent l'aide médicale à mourir, bien, leur famille, pour les préparer à ça, ça pourrait être quelque chose, tu sais. On veut rejoindre plus les grands-parents, parce que souvent, s'il y a un deuil dans la famille, l'attention va être mise sur les parents, mais rarement sur les grands-parents. Mais les grands-parents, ce qu'ils vivent, c'est très difficile aussi. Fait qu'on veut aller rejoindre, tu sais, les grands-parents, les aînés. On veut aller rejoindre plus les ados, parce qu'ils ne viennent pas aussi facilement vers nous.
Ouais, ça, c'est, ils ne viennent pas grand-chose de toute façon. Mais je sais que durant la pandémie, on parlait de culpabilité tout à l'heure. Bon, on le sait que ça a été assez dommageable pour les personnes aînées en CHSLD. Puis bon, ça a été déchirant pour les familles de savoir ce qu'on peut aller voir grand-papa, pas aller le voir. Est-ce que ça a pu jouer sur la culpabilité des enfants de dire, nous, on joue, puis là, si on va voir grand-papa, on ne veut pas le rendre malade, mais si, par exemple, il développe quand même une maladie?
Bien, je dirais deux éléments par rapport à ça. D'une part, oui, souvent les gens, surtout, par exemple, les personnes qui font de, tu sais, les accompagnants naturels, souvent, eux, que ce soit les parents ou les enfants, quand ils voient quelqu'un de leur famille qui est malade, ils ont de la misère à se permettre des moments de plaisir de leur côté parce qu'ils se disent, mais comment je peux avoir du fun quand grand-maman est malade? Donc ça, il y a ça, oui, c'est une part de culpabilité que souvent les gens ont. Et pendant la COVID, oui, les gens ne pouvaient pas aller faire des rituels quand ils perdaient de leurs proches parce que ce n'était pas permis. Fait que ça a été très difficile parce qu'on le sait que c'est important, les rituels, pour faire, on dit en anglais « closure », mais tu sais, pour pouvoir se rencontrer avec d'autres personnes qui ont connu la personne, de partager des souvenirs. Fait que ça a été très difficile pendant la pandémie que les gens n'ont pas pu le faire.
Souvent, même avant la pandémie, en tout temps, je sais que c'est souvent une question dans les familles de se demander à partir de quel âge on peut amener l'enfant au salon funéraire. Puis bon, là, il y a l'évolution aussi. Avant, il y avait beaucoup de personnes qui étaient exposées. Donc, ça amène une autre réalité qu'un enfant devant l'urne qui ne va pas nécessairement faire le lien. C'est quoi votre avis là-dessus?
J'ai pas d'avis personnel. Oui. Nous, ce qu'on dit, c'est aux familles de vraiment y aller selon leur propre réalité, leurs propres besoins. Mais on conseille quand même, c'est d'impliquer l'enfant là-dedans. Qu'est-ce qu'il veut, l'enfant, lui? Est-ce qu'il veut le voir grand-papa dans le cercueil ou pas? S'il y a des rituels, qu'est-ce que l'enfant, lui, pourrait suggérer de son côté? Comme qu'est-ce qu'il aimerait faire? Donc, de l'impliquer, que l'enfant sente qu'il fait partie de la famille puis de la décision, évidemment, à la hauteur de son âge et de ses capacités. Mais c'est vraiment à chaque famille, là, tu sais. Il n'y a pas deux familles. Il y a des familles qui sont plus croyantes, par exemple, qui vont à des rituels religieux. Bien, si eux, ça les aide, c'est parfait. Il y en a d'autres, ça va être autre chose. Fait que nous, on sait vraiment, on encourage les gens vraiment à faire qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce que vous avez besoin de faire.
Bien, il y a justement une de ces réponses-là, des fois, qu'on va dire aux enfants, grand-papa est parti au ciel, ou il est parti dans un grand voyage. C'est quoi votre vision à la Maison des petits tournesols sur ce type de phrase-là?
Bien, nous, on encourage la transparence, donc de dire des vraies choses, donc grand-papa, il n'est pas parti au ciel ou il ne dort pas.
Oui, parce que ça peut amener peut-être des troubles anxieux.
Bien, c'est que l'enfant, oui, mais parce que l'enfant, il n'a pas vraiment une réponse claire à sa question. Donc, dans sa petite tête, il va se poser, il va répondre à ses questions par lui-même qui ne seront pas nécessairement réelles. Alors que si on l'explique que le corps, comme quand une plante meurt ou notre chat meurt, il y a une finitude au corps. Fait que là, déjà, si on explique ça à l'enfant, pour qu'il fasse la distinction entre. C'est pas juste dormir, parce qu'on veut pas justement que l'enfant ait peur d'aller se coucher parce qu'il pense que lui aussi, il va mourir. Là. Donc, c'est ça. Faut vraiment pas être trop dans des choses symboliques ou un peu irréelles. Donc, vraiment dire les choses concrètes. Ceci dit, si le décès, c'est quelque chose de très violent, on conseille pas de dire aux jeunes enfants les détails, là, tu sais. Mais de dire la vraie chose. Si papa s'est suicidé, on dit, bien, dites-le aux enfants que papa s'est enlevé la vie. Mais pas besoin de dire exactement ce qu'il a fait, comment il a fait. Attendez que l'enfant pose les questions. Quand l'enfant va poser les questions, ça veut dire qu'il veut des réponses.
Ça, c'est comme un signal de jusqu'où on doit aller.
C'est ça.
Et comme parent, si, par exemple, je ne sais pas, mon vie en garde partagée, c'est notre mère qui est décédée. Et je sais que parfois, il y a des gens qui ont peu de soutien eux-mêmes et qui ont peut-être tendance à trop investir sur leur enfant ou à trop raconter, ça peut devenir lourd aussi pour l'enfant.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est pour ça que nous, on existe aussi, là. Parce que les parents, si par exemple le parent il a son propre deuil, et en plus son enfant est en deuil, donc il se questionne à ces deux niveaux-là, nous, on leur permet aux parents à la fois de se dégager pour parler d'eux, de leurs besoins, et de leur donner des trucs, des outils pour accompagner l'enfant. Et c'est ça, c'est que quand l'enfant peut venir vers vient nous voir, bien, il y a des choses qu'il va pouvoir parler avec nous, qu'il n'aura pas besoin après de ça ne causera pas de difficultés dans la famille parce qu'il va en avoir, il va avoir un endroit où en parler.
Oui. Un peu plus tôt, vous avez dit, ça dépend de la personnalité des enfants. Oui. Pouvez-vous nous donner des exemples, comment ça peut évoluer les réactions au deuil selon les personnalités?
Bien, tu sais, c'est ça, il y a des enfants qui vont vivre plus la colère, qui vont avoir un regain de colère qu'il n'y avait peut-être pas, ou il y a des jeunes qui vont avoir un genre de régression. Tu sais, mettons un jeune enfant qui avait des comportements qu'il ne faisait plus.
Comme par exemple, mouiller son lit la
Exactement. Nuit. Exactement, ou... oui. Ça, c'est un bon exemple. Bien là, il va recommencer à le faire. Mm. Parce que le deuil, ça déstabilise les gens à plein de niveaux, au niveau psychologique, émotif, cognitif, physique. Hein. On a des réactions physiques, on a des problèmes de digestion, on a des problèmes de sommeil. Donc, c'est la même chose pour les enfants. Donc, chez les enfants, parfois, il va y avoir, c'est ça, un genre de régression. Puis, dépendamment de la personnalité, il y a des enfants introvertis, mais qui vont peut-être être encore plus introvertis puis ne voudront pas parler. Puis d'autres, au contraire, qui étaient déjà agités, vont être ultra agités. Puis ça dépend de l'histoire familiale aussi. Y a-t-il déjà eu d'autres deuils? Y a-t-il des conflits dans la famille? Y a-t-il d'autres problématiques sociales dans la famille? Tu sais, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte pour expliquer comment chaque personne vit son deuil.
Oui, je comprends que ça vaut la peine de consulter un spécialiste vu que c'est tellement quand même complexe comme réaction possible. Puis si on voit que l'enfant ne parle pas, est vraiment muet, veut rien dire, est-ce qu'on, jusqu'à quel point on...
Bien, c'est ça, on ne conseille jamais de forcer. Hein. Si un enfant ne veut pas venir, ça ne donne rien de le forcer. S'il ne veut pas parler, il ne va pas parler. Souvent, les parents vont dire, « Ouais, il n'avait pas trop envie de venir, mon enfant. J'ai quand même dit de venir une fois. » Puis là, après la première rencontre avec l'intervenante jeunesse, souvent, finalement, l'enfant est content. À la fin de la rencontre, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé là, dans sa tête qui va faire que, ah oui, il sent mieux, puis il se rend compte que oui, il avait besoin, puis souvent, il veut revenir, l'enfant.
Ah oui.
Oui, ça arrive souvent. Il ne voulait pas venir, puis finalement, ils veulent. Puis quand ils rencontrent d'autres enfants, parce qu'on a des groupes mensuels, oui. Ça, vraiment, les enfants aiment beaucoup ça.
Ça doit faire du bien, justement, de jaser avec des enfants.
Exactement.
Ou par exemple, ouais, peut-être la réaction à l'école, par exemple, j'ai manqué une journée parce qu'il y avait les funérailles, et là... Les amis, eux, comprennent pas. Les amis jouent, puis toi, t'es triste.
Exactement, puis c'est ça. Puis des fois, les enfants n'ont pas l'âge eux-mêmes de donner un soutien comme adéquat. Fait quand ils rencontrent d'autres enfants qui vivent quelque chose de similaire, même si c'est pas le même deuil, puis la même personne qui est morte, ça les aide vraiment beaucoup. Puis on le voit vraiment la différence, là, quand ils viennent au groupe, les jeunes, premièrement, ils créent des alliances avec les autres enfants. Puis chacun exprime un peu c'est qui la personne qui est décédée, puis qu'est-ce que ça leur fait vivre. Ça les aide vraiment beaucoup parce que justement, là, enfin, ils sentent qu'il y a d'autres enfants qui vivent la même chose que moi.
Puis on ne peut pas dire parce que quelqu'un réagit plus fort, qu'il souffre plus ou...
Non, c'est ça. Ça, c'est comme un mythe aussi. Le plus que tu l'aimes, plus que ton deuil va être difficile ou plus que tu vas pleurer. Il y a des gens qui pleurent plus, il y a des gens qui pleurent moins. Le deuil, c'est vraiment... Il n'y a aucune règle qui est la même pour tout le monde. Il y a des étapes, mais les étapes ne sont pas tout le temps pareilles. C'est pas la même durée pour tout le monde. Fait que c'est vraiment, chaque deuil est unique. Puis ça, c'est important que les gens sachent ça aussi. Quand on vit, on leur dit vraiment ça.
Il y a des vagues habituelles, mais qu'on peut réagir de façon différente. Parce qu'il y a aussi le fait, justement, de ne pas vouloir être un poids pour nos amis, qui, eux, parfois, sont décontenancés quand ça fait plusieurs fois, puis tu sens que tu n'y arrives pas à le faire, ton deuil.
Oui, bien, puis souvent, les amis ou les proches, puis c'est pas fait de mauvaise foi du tout, mais ils vont dire des choses parce que peut-être qu'ils ont, eux-mêmes, ils vivent la détresse devant la détresse de la personne, leur ami ou leur frère, sœur. Ils vont dire à la personne, bien, tu reviens-en, ou tourne la page, ou arrête d'y penser, c'est pire. Puis ça, c'est pas des choses qui sont aidantes, c'est pas ça que les personnes en deuil ont besoin d'entendre. Ils ont besoin d'entendre que tu peux en parler. C'est normal que tu pleures beaucoup, puis c'est normal que tu penses à ça beaucoup, beaucoup, puis que ça dure longtemps. Fait.
Donc, peut-être justement de connaître votre organisme, on va peut-être pouvoir dire à un de nos amis, ben écoute, j'ai appris que cet endroit-là existe. Donc, site Internet, la Maison des petits tournesols.
Oui, on a un site Internet qui s'appelle la Maison des petits tournesols. On est aussi sur Facebook et on est sur Instagram.
Est-ce que si on veut vous aider, comment on peut le faire?
Bien, on peut. C'est sûr qu'on reçoit des dons. Sur notre site, il y a un bouton « Je donne ». Ça peut aussi envoyer des chèques. On accepte les bénévoles aussi. On a une équipe de bénévoles qui nous aide à l'intervention. On a aussi parfois des bénévoles qui vont nous aider à d'autres niveaux, là. Informatique, administration. Donc, on accepte l'aide. Puis c'est sûr qu'on aimerait avoir plus de financement, là,
Bien, j'espère qu'on vous a entendu, Claudine Grisé, coordonnatrice de la Maison des petits tournesols.
Merci beaucoup.